France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Maryse. J'ai vraiment beaucoup aimé votre roman. Ce qui m'a tout de suite emballé, c'est cette tension constante, nourrie des codes du roman noir, mais portée par votre propre souffle. Et puis, il y a le paysage. On est happé par ce haut Jura, ses falaises, ses plateaux, ses bourrasques, ses congères.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Un roman au bord de la faille dans votre book club aujourd'hui. L'histoire se passe dans les années 70, tout au fond d'une combe du Haut-Jura. Isabelle et Tony, un couple de jeunes parisiens, s'installent dans ce coin reculé pour donner vie à leurs rêves et à leurs idéaux. Ce, sous le regard d'abord attendri du père Satin, le paysan voisin, mais nettement moins bienveillant de son fils qui a repris l'exploitation. Quelque chose va mal tourner, mais quoi ? Il y a des fissures rocheuses desquelles il vaut mieux ne pas trop s'approcher, des vipères et des abeilles qui s'échappent, de la neige qui s'accumule, des ombres qui rôdent et des désirs refoulés, la menace gronde. Maryse Vuillermet signe un roman noir très noir et délicieusement angoissant, elle est notre invitée. En fin d'émission, comme chaque jour, nous irons chercher de la musique dans les livres et ça tombe bien car il y en a. Dans celui de notre invitée, on est ensemble pour une heure, le verre est dans le fruit, mais nous, on est au chaud sous la couette parce que dehors il fait froid. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Maryse Vuillermet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce livre La Pia, je le prononce à la jurassienne, c'est son titre.
C'est
il a paru dans la collection Noire des éditions du Rouergue. On est ravis de vous recevoir pour en parler. Vous le savez peut-être, ici dans cette émission, on commence toujours par faire connaissance avec nos invités en tant qu'ils ou elles sont des lecteurs, des lectrices. Comment ça s'est passé pour vous, la découverte de la lecture ? Dans quel paysage, auprès de qui vous avez peut-être pas appris à lire, mais découvert le plaisir, ou pas le plaisir d'emblée, de lire, Maryse Vuillermet ?
Alors, je dirais que les plus anciens souvenirs, les plus lointains souvenirs, ce sont les contes. Les contes de fées, parce que vous avez remarqué que souvent ça se passe dans la forêt, ça se passe dans des forêts profondes, dans des forêts épaisses. Donc moi j'ai en tête, peut-être ma première lecture, Le Petit Poucet.
Ouais.
Et ça correspondait à quelque chose aussi d'un peu personnel, parce que le bûcheron emmenait ses enfants dans la forêt parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Et... je me souviens de mon père qui disait parfois, quand le travail ne payait plus beaucoup, qu'il était angoissé, il disait « qu'est-ce qu'on va faire ? On va mourir de faim », enfin des choses comme ça. Et moi je me disais mais non, si jamais il nous emmène dans la forêt, je vais ramener mes frères et sœurs. Voilà. On entend dans les contes ce qu'on cherche. Hein. Voilà, la petite marchande d'allumettes aussi, Cendrillon, enfin beaucoup d'autres. Et puis je dois dire aussi que c'est particulier, mais on était une famille nombreuse. Moi j'étais la deuxième. Autour de moi, j'étais parmi les trois premières filles, les trois aînées. Et je lisais le soir, on lisait le soir. Et c'était moi qui lisais. Pourquoi pas mon aîné ? Pourquoi pas Donc, j'étais la lectrice, en quelque sorte.
Vous lisiez à voix haute
Je lisais à voix haute.
À vos frères et sœurs.
Oui.
À vos sœurs en particulier.
Dans le lit, on était trois dans le lit, j'étais au milieu et je lisais. Bon, et puis ensuite, après, d'autres lectures d'enfants. Mais c'était souvent des lectures, en y repensant, qui se passaient, oui, dans les forêts, dans la campagne, La Mare au Diable, des livres comme ça. Je me rappelle aussi d'un petit livre dans la bibliothèque Rouget Or, Le Chalet des Joues Roses. C'était des enfants qui avaient été laissés par leurs parents dans un chalet. Il y avait eu une tempête de neige et le chalet avait été bloqué par la neige. Enfin bon. Et puis ensuite, si je me réfère à un âge, je pars vers 11-12 ans par là. Là, vraiment, vraiment, le livre qui me revient, c'est Les Quatre Filles du Docteur March. Alors là encore, je me lisais dans ce livre parce que je me voyais dans Joe, la seconde. Moi, j'étais la seconde. Joe voulait écrire. Moi, je commençais déjà à écrire des petits textes sur des cahiers. Et donc, ça, c'est un roman qui m'a porté longtemps. Et même encore aujourd'hui, je le relis avec plaisir. Après, j'arrive, je sais pas, vers les années du collège. J'ai jamais vraiment beaucoup aimé les lectures du lycée, du collège.
Les lectures obligatoires.
Les lectures obligatoires, voilà. Mais assez vite, vers 14-15 ans, j'avais une amie plus délurée que moi, je dirais. Et elle m'a fait lire Henri Miller, Anaïs Nin. Bien sûr, j'avais lu Zola aussi, presque tout Zola. Hein, ça me parlait énormément. Mais alors, à l'adolescence, Henri Miller, c'était vraiment celui qui vivait plusieurs vies, qui voyageait. Et puis Anaïs Nin, oh, mon Dieu, Anaïs Nin, elle était à la fois l'amie des écrivains, mais en même temps, elle avait une vie bourgeoise, ce qui était pas mal aussi, parce que moi, je voulais bien être un écrivain maudit ou un écrivain voyageur, mais il fallait quand même l'assurance d'un salaire. On savait ce que c'était dans ma famille de ne pas avoir de salaire. Donc, petit à petit, je me disais, bien, je serai écrivain, je serai un écrivain du voyage, parce que il faut dire aussi que je suis née dans le Haut-Jura, mais dans une petite ville ouvrière de fond de vallée, un peu sombre.
Qui s'appelle
Saint-Claude, dans le Haut-Jura. Donc, avec des industries de main-d'œuvre, la taille du diamant. Mon père a été diamantaire. La fabrique des pipes. Et puis des industries de matières plastiques aussi énormément. Les usines étaient au bord de la rivière. C'était quand même un endroit à la fois fort, mais dont on rêvait de partir.
Je m'arrête un instant, je reviens un instant, Maryse Villermet, sur la première réponse que vous m'avez faite. La première évocation que vous me faites quand on parle de vos souvenirs de lecture, c'est le Petit Poucet et c'est la forêt. Oui. Vous parlez du Haut-Jura, on va voir à quel point ce paysage, ce décor est important dans le livre pour lequel on reçoit. Mais cette correspondance entre un paysage dans lequel on vit et ce qu'on lit, si je comprends bien, c'est aussi au cœur de votre découverte de la lecture, de même que l'intrigue du Petit Poucet vous renvoyait à une forme de fragilité, de précarité, qui était celle de votre père. Est-ce que ça veut dire que vous cherchiez dans les livres, sans peut-être que ce soit formulé de manière consciente, bien sûr, mais vous cherchiez dans les livres quelque chose qui vous parle de vous, de votre situation, de celle de votre famille lieu où vous viviez.
Oui, moi je pense qu'on lit, qu'on se lit autant qu'on lit les livres. Enfin pour moi, je cherchais dans les livres et peut-être même je cherche encore qui j'étais, comment allait aller notre famille, comment serait mon avenir. C'était vraiment beaucoup de questions que je me posais et dont je cherchais la réponse dans les livres, c'est certain. Et donc, je lisais des livres dont l'univers ressemblait au mien. Donc, bien sûr, la forêt, mais aussi, par exemple, j'ai cité Zola, parce que c'est quand même un des premiers écrivains qui a décrit le monde du travail, le monde des paysans, de la terre, mais aussi le monde des mineurs et du travail. Le monde ouvrier. Et ça m'appelait beaucoup. Je me disais, si un jour j'écris, il faut que je parle de cela, quoi.
Est-ce qu'il y avait des livres chez vous, chez vos parents, chez votre père
Alors, il n'y avait pas beaucoup de livres quand j'étais très, très jeune. Après, bien sûr, chacun des enfants a lu, a apporté des livres. Et mes parents n'avaient pas fait d'études, mais ils étaient très avides de connaissances, de culture. Mon père aurait aimé... il aimait beaucoup l'histoire et la géographie. Il était très fort en histoire. Il aurait aimé peut-être être enseignant, mais il a travaillé comme berger à 8 ans, comme bûcheron à 14 ans, c'était difficile. Et maman aussi lisait beaucoup. Et elle disait que son père... Enfin, c'était des gens qui lisaient, mais des livres de la bibliothèque ou des livres trouvés au hasard. On avait aussi une collection de livres qu'un représentant de commerce nous avait fait acheter. Je les ai revus il n'y a pas longtemps. Il n'y avait pas un seul livre vraiment intéressant, mais... ses représentants passaient dans les maisons et disaient « il faut que vous achetiez cela pour vos enfants, pour qu'ils aillent à l'école ». Et surtout, mes parents voulaient qu'on réussisse à l'école. Ça, c'était vraiment une volonté chevillée à leur corps. Donc, ils plaçaient très haut le travail scolaire, la culture. Et... et on suivait, quoi. On savait que c'était exactement ce qui, vers là où il fallait aller. Et par exemple, moi, je suis allée dans une école, on disait classe unique, c'est-à-dire on rentrait à 5 ans. Certains en sortaient à 14 ans. Nous, on allait en 6e à 11 ans. Mais on n'aurait jamais manqué un jour de classe. C'était assez loin pour y aller. Et c'était un univers... c'est un univers que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Quoi. Mmh. L'école, le collège, le lycée, c'était la... La grande ouverture, quoi.
Mais pour ce qui est des lectures, c'était pas vos lectures préférées.
En tout cas, ni au collège. Alors au lycée, si. Au lycée, j'ai aimé, par exemple, les grands textes comme Phèdre de Racine, Vénus tout entière attachée à sa proie. Ça me parlait beaucoup. Et à l'école primaire, peut-être aussi certains poèmes de Victor Hugo, La Légende des siècles, La cabane est pauvre mais bien close. Ça, c'est des lectures qui m'émouvaient, qui
Pourquoi?
Mes camarades.
Qu'est-ce qui vous émouvait?
C'était nous, quoi. Enfin, c'était les pêcheurs, les pauvres pêcheurs, c'était les pauvres ouvriers. Enfin, j'exagère, hein, c'était une littérature qui ne parlait pas de monde de bourgeois parisiens, enfin, qui parlait de nous, quoi. Mmh. Voilà. Si on nous faisait étudier un poème, je sais pas, là, je suis la pipe d'un auteur, ça nous parlait absolument pas. Enfin, voilà.
Il fallait qu'il y ait une forme de reconnaissance.
Oui.
Vous disiez qu'assez petite, vous aviez l'image de vous-même écrivant.
Oui.
Est-ce que cette image-là, c'est passé par des textes en particulier ou comment c'est né cette idée? Parce que c'est une chose que d'aimer la lecture ou les histoires qu'on nous raconte.
Oui,
c'est
oui.
une chose très différente que de se dire qu'on va en écrire à son tour.
Alors, je pense que ça commençait, à l'école primaire, quand on écrivait des rédactions et que l'institutrice mettait des annotations très bien, récits vivants. Enfin, donc, ça me plaisait d'écrire ces rédactions. J'étais, comment on pouvait dire à l'époque, bonne en français, voilà, c'est ce qu'on disait. Et donc, je me suis sentie reconnue dans cette aptitude à écrire, à raconter. J'écrivais des petites poésies pour la fête des mères, enfin, des choses tout à fait d'enfant, quoi. Et puis ensuite, au lycée, j'ai continué à bien écrire, si je puis dire, pour le milieu scolaire, quoi. Et peu à peu, je tenais un journal et j'ai eu assez tôt la conviction que j'avais des choses à dire, quoi.
Mmh. Un peu plus tard, vous avez aussi enseigné le français.
Alors, bien entendu, j'ai fait des études de lettres, et puis j'ai enseigné le français à mon tour. Je vous rappelle que je voulais voyager. Enfin, je voulais. Donc, mon premier poste était en Algérie, dans le Sahara, dans le désert. C'était une oasis. Alors là, j'étais vraiment très très heureuse parce que à la fois j'avais un salaire d'enseignante et puis j'étais dans un autre monde. Alors j'avais lu aussi dans mon adolescence des écrivains du voyage comme Isabelle Eberhardt pour le Sahara, Alexandra Davinel. Voilà, donc ces écrivains voyageurs m'appelaient aussi. Et là, j'enseignais dans un lycée algérien. J'avais des élèves qui étaient nomades. Donc, ils vivaient encore sous tente, mais ils habitaient l'internat nomade du lycée.
C'était dans quelle région d'Algérie?
La Rouate, c'est au sud de Gardaïa, c'est le désert. Pas encore le désert de sable, mais l'ergue. Et je vivais mon rêve, quoi, enfin, d'enseigner et d'être ailleurs, quoi. Et puis, j'avais également lu sur Aurélie Picard, une Française qui avait épousé un chef de Zaouïa en Algérie. Enfin, j'aimais l'ailleurs, mais avec une certaine sécurité. Donc là, j'avais les deux, quoi. Donc j'ai commencé en Algérie, mais après, j'aurais aimé continuer à aller par le monde, courir le monde. Mais en même temps, j'avais envie de fonder une famille, enfin, etc. Donc, je suis revenue en France. Et là, j'étais enseignante à Dunkerque.
Donc, autre ambiance.
Autre ambiance. Et puis, on s'amusait autour de moi, de Dunkerque à Tamanrasset. Oui, d'accord, bon. Et puis, ensuite, je voulais revenir quand même un petit peu dans ma région d'origine. Donc, pas à pas, j'ai enseigné à côté à Saint-Étienne, j'ai enseigné en lycée, puis à Lyon.
Et est-ce que l'expérience de l'enseignement, le fait d'enseigner la lecture, les livres, ça a changé votre rapport, votre propre rapport intime au plaisir de lire?
Pas vraiment, non. J'étais très heureuse de faire partager cette passion de la lecture et de l'écriture à mes élèves. Mais à cette époque-là, j'écrivais pas encore vraiment, je savais pas encore ce que je voulais écrire. J'étais toujours partagée justement entre une fausse idée que j'avais de l'écrivain maudit, l'écrivain voyageur, l'écrivain bohème et ma petite vie d'enseignante. Je voyais pas comment ça pouvait se concilier. Donc bon, j'étais heureuse de partager. J'animais des ateliers d'écriture dans les lycées. On organisait avec des collègues des projets pédagogiques un peu fous. Je me suis rappelé tout à l'heure qu'on avait amené nos élèves du lycée de Givors à côté de Lyon sur les traces de Pénac à Belleville. Enfin, des choses comme ça. Bon. Et donc j'étais heureuse, mais en même temps, il y avait quelque chose de terrible dans l'enseignement des lettres, qui existe encore aujourd'hui, c'est qu'on avait des textes obligatoires à enseigner, et on se désespérait parfois d'ennuyer nos élèves, de ne pas arriver à les capter dans notre passion, parce que c'était des textes que nous-mêmes, on n'aimait pas.
Décidément, les lectures obligatoires, ce soit vous comme élève ou comme enseignant.
Alors, bien sûr, j'ai pu faire lire à mes élèves à Gotha Christophe, Le Grand Cahier, Long Dimanche de Fiançailles, enfin, des textes qui m'étaient proches aussi, mais certains autres, je me rappelle aussi La Peau de Chagrin, ça c'était au programme, c'était bien, mais certains autres textes, j'aurais préféré les mettre à la poubelle, enfin, c'était terrible. Et je reproche beaucoup à l'enseignement en français tel qu'il est fait, d'obliger les enseignants à enseigner des choses qu'ils n'aiment
pas. Non, pas envie de vous plaider pour une liberté de l'enseignement et de la lecture.
Et de la lecture.
Accessoirement. Oui, tout à fait. On va aller vers votre roman à vous.
Alors, juste, je voudrais dire aussi, en même temps que j'enseignais, je passais les concours, j'ai passé le CAPES, l'agrégation, et puis j'ai fait ma recherche, ma thèse. Et là, j'ai commencé à approfondir aussi ce que je voulais écrire, puisque ma thèse, c'était sur la représentation du monde ouvrier, de Claire Etcherelli. Et là, j'ai commencé...
Sur le livre de Claire Etcherelli qui s'appelle Élise ou la vraie vie.
Voilà. Et là, j'ai commencé à lire des écrivains, écrivains prolétariens, écrivains ouvriers, et écrire des articles sur eux aussi. Et là, je commençais à voir ce que j'avais envie d'écrire, quoi.
Ouais, on va voir de quelle façon ça a pu aussi influencer votre propre écriture et en particulier dans ce livre qui s'appelle Lapia. Oui. Il y est question d'étrangers qui arrivent, je l'ai dit en introduction. L'étranger et l'étranger sont au cœur de la fameuse chanson des Doors qui s'appelle People Are Strange. On l'écoute pour nous emmener vers votre livre dans la reprise qu'en ont proposé le groupe Birds on a Wire dans leur tout dernier album.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Oh, people are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're wanted. Streets aren't even when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, No one remembers your name when you're strange, when you're strange. People are strange when you're stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're wanted. Streets aren't even when you're down.
Il y a quelque chose de pourri au royaume du Haut-Jura. L'eau finit toujours par remonter à la surface, car les histoires, elles se perdent et un jour, elles ressortent. Isabelle et Tony arrivent par un beau jour de l'été 1977 au volant de leurs deux chevaux camionnettes bleues dans cette combe reculée du Crêt à la Neuve. Ce, sous le regard de la famille de paysans du coin, les Satins. Le père, qui développe assez vite une forme d'affection pour eux, contrairement à Bernard, son fils, qui se montre beaucoup plus hostile. Deux mondes qui se regardent en miroir, chacun avec ses douleurs, ses secrets et ses pulsions plus ou moins refoulées. Il y a ces vipères qui s'échappent des seaux, ces ombres qu'on aperçoit rôder au loin, ces abeilles qui quittent les ruches et surtout cette roche traversée de crevasses près desquelles il vaut mieux ne pas s'aventurer. Et si le gouffre, c'était aussi celui de ce monde amené peut-être à disparaître? Et si la faille, c'était aussi celle de nos désirs inassouvis? Comme dans la tragédie antique, on sait que tout ça va mal finir. La question, c'est comment ? L'Appia, c'est le titre de votre roman, Maryse Vuillermet, et on vous retrouve pour en parler. Il a paru cet automne dans la collection noire des éditions du Rouergue. Ce qui frappe d'emblée, l'une des choses qui frappe d'emblée dans ce livre, c'est sa structure. Il se compose de courts chapitres qui voient alterner une parole en première personne, celle du père Satin dont je parlais, donc ce vieux paysan qui nous raconte pour une part l'intrigue, et puis d'autres chapitres écrits à la troisième personne du singulier, mais articulé, donc à la troisième personne, c'est-à-dire à un narrateur qu'on pourrait dire omniscient, mais toujours articulé au point de vue d'autres personnages, et en particulier dans la première partie du livre, à celui d'Isabelle, qui est cette jeune femme, donc cette hippie, comme va les surnommer les gens du coin, qui arrive de Paris pour s'installer là, pour vivre une forme peut-être d'utopie rurale pour elle, comme si le roman, par sa forme même, matérialisait un peu ses deux mondes, hein, ceux des locaux, ceux du coin, et puis ce monde de ceux qui arrivent, deux mondes qui se toisent en quelque sorte. Mm-hmm. Est-ce que cette structure-là, elle a été présente dès le début pour vous ? Est-ce qu'elle était même dans l'envie d'écrire cette histoire ?
Oui, en tout cas, la voix du père Satin a été présente dès le début. J'avais cette voix en tête. Mm. C'est la voix de mes grands-parents, des vieux paysans du coin. Et je sais comment ils pensent, je sais comment ils voient les choses. Donc, je voulais que le père Satin raconte, parce que ce sont des personnes qui parlent peu d'habitude, mais qui voient tout, qui comprennent tout, qui sont fins observateurs, fins psychologues, et donc c'est sa voix que j'avais d'emblée. Et puis Isabelle, je me suis dit ce serait bien aussi qu'on ait l'autre voix que j'ai aussi, à vrai dire. Moi, j'ai écrit cette histoire parce que j'étais des deux côtés de la faille, d'une certaine façon. Donc, les paysans du coin, les gens du coin, c'est mon univers, c'est celui de mes parents, de mes grands-parents, des gens très travailleurs, très, très, bien sûr, durs à la tâche, mais aussi parfois durs aussi avec eux-mêmes et avec les autres. Et puis en face, c'était nous, les jeunes de la ville, les jeunes du coin. Je l'ai dit, on rêvait de partir.
Oui, vous êtes de la génération d'Isabelle et Tony.
Je suis exactement de la génération d'Isabelle et Tony. On rêvait d'une vie plus libre. On rêvait de la même utopie qu'Isabelle et Tony. Et au moment où on voulait partir, au moment où on allait commencer nos études, où on allait s'éloigner, on les a vus arriver, les hippies, comme on les appelait. Et ces jeunes avaient notre âge, et ces jeunes nous faisaient rêver. Ils étaient habillés de couleurs vives, ils étaient toujours heureux, toujours en train...
En apparence,
toujours en train de chercher des aventures. Donc on s'est dit presque, tiens, on va attendre un moment, on va pas partir tout de suite, on va les regarder. Et donc on a vécu un petit peu dans ces fermes isolées qui étaient quasiment abandonnées, qui étaient louées, qu'on pouvait louer pour rien. Et il y avait quelque chose aussi qui était très fort, ils nous disaient quelque chose de notre pays. Parce que donc nous, surtout dans les vallées, on ne savait pas encore que notre pays était beau. Le tourisme n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Et eux, en arrivant, nous ont dit « Mais c'est beau ici, c'est beau ici. » Ah.
Donc, ouais, il y a cette très belle idée que c'est aussi avec le regard de l'autre,
oui,
de celui qui vient,
qui arrive,
qu'on arrive à voir,
son propre
pays.
Ce qu'on a sous les yeux qu'on ne voyait pas. Donc, j'avais envie d'être dans la peau d'Isabelle et de penser comme elle, de penser bien sûr avec ses angoisses mais aussi avec sa joie pure quand elle est arrivée. Et puis, ce qui m'amuse aussi, moi je suis un petit peu comme ça, donc elle rêve d'aventure et de vivre dans une campagne isolée, et puis elle a peur de tout. C'est-à-dire, son rêve n'est pas la... Enfin, ce qu'elle est, sa personnalité, n'est pas à la hauteur de ses rêves. Bien sûr, son rêve va se fracasser sur la réalité. Bon, on est tous un peu comme ça, mais ces jeunes encore plus, quoi.
Vous parliez de la voix du Père Satan, c'est aussi sa voix qui nous accueille dans le roman, avant même qu'on entre dans l'intrigue par un texte qui est comme un préambule. Je vous propose qu'on l'écoute.
Le moment est venu de raconter. Sinon, l'histoire se perd et c'est pas bon. Certains disent qu'il faut laisser les secrets enfouis, mais on peut penser différemment. Ne pas tout cacher au fond des grottes, des ravins, parce que de toute façon, un jour, ça ressort. Même longtemps après. C'est comme l'eau. Ici, on est un pays d'eau et de calcaire. L'eau se faufile, cherche un chemin, creuse la roche et ressort à des kilomètres. Longtemps après, elle revient à la surface. On a plein d'histoires à propos de ça. Ils ont mis du rouge dans le trou de l'enfer et le rouge est ressorti vers Salin, vers les gorges de la Langouette. Le cheval refusait toujours de passer là. Et 15 ans après sa mort, ça s'est effondré. Le cheval savait que sous l'herbe, il y avait un trou, que c'était une doline. Voilà, les histoires, elles se perdent et un jour elles ressortent, quand c'est le moment.
C'est l'ouverture de votre livre, Maryse Vuillermet, avec ces histoires mystérieuses qui ont l'air comme ça d'être là de tout temps, et cette image assez forte de ce rouge dans le trou de l'enfer et qui ressort. Pour vous interroger sur deux choses, d'abord, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Et comment on a l'impression d'avoir ici affaire à quelque chose de l'ordre du mythe. On pense, en découvrant le roman par la suite, beaucoup à la forme de la tragédie antique. Il y a quelque chose vraiment dans ces histoires de frères, parce que la famille Salin, c'est donc ce père Salin, sa femme et ses trois fils. Bernard qui est là sur place, mais bientôt va arriver dans les conversations, dans ce que nous raconte ce paysan, un autre fils qui est emprisonné, et puis un aîné qui est parti, qu'on verra peu, mais qui lui, exerce le métier de psychologue, il est dans une forme de réussite sociale un peu différente. Et puis surtout, cette idée que d'emblée, et on l'entend dans cette ouverture, on sent que quelque chose de terrible va arriver. On sait, comme dans la tragédie, comme quand Oedipe sait l'oracle, mais on ne sait pas comment. Est-ce que cette structure-là, qui est aussi la source même du suspense dans votre roman, elle naît aussi d'une mythologie de ce territoire-là, d'histoire associée à cette région qui est celle du Haut-Jura.
Oui, bien sûr. Alors, ce sont des histoires qu'on a entendues, qu'on nous a racontées, qu'on a entendu dites par les parents, qu'on a entendu dans un café, que les gens connaissent, mais déforment, oublient. Et moi, j'ai toujours été attirée par ces histoires. Donc, je les ai entendues, je les connais. Mais après, et je me dis qu'il faut un jour que je les raconte. Mais après, je vais les transformer, je vais rajouter d'autres éléments. Et pourquoi est-ce que je me souviens de celle-là et pas d'une autre? Parce qu'elle a une dimension à la fois mythologique et universelle, certainement. Mmh. Et puis l'histoire des deux frères, bon, bien sûr, c'est biblique, hein. Mais c'était aussi, c'est en l'écrivant que j'y ai repensé. Dans la famille de mon père, il y avait 4 garçons, 4 frères. Et un jour, ma mère avait dit, leur mère a toujours eu peur qu'ils se battent et que ça se passe très mal. Mm. Ça a dû me rester en tête. Vous voyez des choses, des phrases comme ça qu'on entend et qui sont là, quoi.
Mm. Et cette violence qui sourd dans toutes les familles, d'une certaine manière.
Et dans toutes les mères ont peur. En tout cas, elles ont toujours peur que les frères et sœurs se disputent, ne s'entendent pas bien. Enfin, c'est une angoisse de mère. Mm. Donc ça, je l'avais aussi, et voilà. Et donc elle s'est retrouvée dans mon histoire. Et puis vous avez parlé de ce paysage, de cet endroit. Bien sûr, ça se passe partout dans les villes, partout, mais dans des endroits aussi reculés, aussi sauvages, aussi isolés, ça prend des dimensions surnaturelles, enfin des dimensions justement mythologiques, quoi. Hein, parce qu'il n'y a que ça, quoi.
Justement, je voudrais qu'on écoute la question que l'un de nos auditeurs vous adresse. Il a lu votre livre, il l'a beaucoup aimé et justement, il vous parle, il vous interroge sur ces paysages très singuliers. Il s'appelle Xavier, on l'écoute.
Bonjour le Book Club, bonjour Maryse. J'ai vraiment beaucoup aimé votre roman. Ce qui m'a tout de suite emballé, c'est cette tension constante, nourrie des codes du roman noir, mais portée par votre propre souffle. Et puis, il y a le paysage. On est happé par ce Haut-Jura, ses falaises, ses plateaux, ses bourrasques, ses congères. J'aimerais vous entendre là-dessus. Comment ce milieu façonne-t-il vos personnages? Est-ce que la rudesse du lieu, du climat, entre dans leur psychologie? Et plus largement, comment avez-vous élaboré ce réseau de relations entre les personnages de ce roman et le pays qu'ils habitent?
Merci Xavier pour cette question qui porte sur la relation entre ces paysages et les personnages et l'intrigue.
Alors, bon, il y a 2 questions, mais je vais aller pas à pas. Donc, la relation entre les personnages et le paysage, bien sûr, elle est très forte. Les paysages, les personnages sont faits, hein, de cette montagne, de cette minéralité, de ces falaises. Et alors, qu'est-ce que ça donne comme ça donne des choses un peu paradoxales. D'abord, ils sont un petit peu toujours sur le qui-vive, je dirais. Toujours un peu inquiets. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va être la neige cette année plus tôt, avant qu'on ait eu le temps de rentrer le bois? Est-ce que on aura le temps de faire les foins avant qu'il pleuve trop? Donc, ça donne des gens sur le qui-vive, inquiets, mais surtout qui observent. Ils lisent le paysage, ils lisent le ciel, ils lisent l'air, et ils lisent aussi l'attitude des animaux, quand est-ce que les hirondelles s'en vont, quand est-ce que, combien les, s'il y a beaucoup de portée de lièvre, c'est qu'il va faire beau. Enfin, ils ont vraiment une très très forte connaissance, donc une inquiétude, et en même temps, et c'est paradoxal, une force. Par exemple, à un moment donné, je vais dire au père Satin, ils retrouvent les falaises au printemps, il dit, elles ont tenu, elles tiennent depuis des millénaires. Mmh. Et nous aussi, on tient, c'est pas une bourrasque qui va nous renverser, on est solide. Donc, à la fois inquiet et en même temps solide, résilient, sachant que très souvent, le drame arrive parce que, parce qu'ils vivent dans des conditions difficiles.
Parce que c'est un territoire dangereux.
Parce que c'est un territoire dangereux, parce qu'ils sont bûcherons, ils peuvent se faire mal en coupant du bois, parce que il y a beaucoup de neige, il peut y avoir des accidents dus à la neige. Bon, donc à la fois sur le qui-vive, inquiet, et en même temps, c'est pas un malheur qui va nous abattre. Et un malheur, on en a l'habitude. Voilà. Et il y avait autre chose aussi dans la question, il disait les relations entre eux. Là, on a quand même aussi une autre dimension, c'est que de tout temps, ces paysans veulent transmettre. D'ailleurs, un des titres que j'avais proposé, moi, c'était La Relève, parce que c'est vraiment un des sujets du livre. On a travaillé toute notre vie, sans jamais pour prendre vraiment du plaisir. La vie s'est faite pour travailler, etc. Et on va transmettre notre bien à notre fils, celui qui est le plus apte à le recevoir.
Voilà, donc, le personnage de Bernard, le personnage dans le livre, Bernard,
qui reprend l'exploitation. Bon, sauf que lui veut la reprendre à son idée, mais enfin, c'est quand même lui qui va la reprendre. Donc, une espèce de besoin d'éternité, d'une certaine façon. C'est toujours comme ça, ça s'est toujours fait comme ça, on va faire comme ça. Et puis, en même temps, comme je l'ai dit, ils sont super observateurs, ils savent quelque chose. Ils savent que c'est la fin de ce mode de vie, de petites exploitations avec quelques vaches et quelques animaux, un peu de terre. Ils sentent que en même temps, peut-être que ça va pas se passer comme c'est prévu, peut-être que le fils va hériter, mais que ce sera la fin. Donc
oui, parce que vous peignez aussi un moment très singulier,
c'est un moment très
particulier d'une histoire de l'histoire agricole française et dans cette région en particulier. Exactement. La fin des années 70 où on bascule vers autre chose, et dans le roman ça apparaît par petites touches. On commence à arriver aussi les stations, les Rousses deviennent une station,
c'est
ça. Des gens vont travailler sur le mode d'un travail saisonnier, où la relève pour ce qui est du monde paysan se fait difficile, où il y a une attirance vers autre chose, vers une forme de progrès aussi, à laquelle, à la fois qu'incarnent d'une certaine manière ces étrangers, entre
c'est
guillemets,
ça,
qui arrivent,
exactement.
Mais en même temps, eux aussi aspirent à autre chose.
Oui.
Donc il y a tout un réseau pour décrire, forme de bascule.
Oui, c'est un moment de crise pour l'agriculture, c'est un moment de bascule aussi pour ces jeunes des villes qui cherchent autre chose, qui cherchent un rêve de vie là-haut, et donc tout cela se noue, quoi, et toutes ces relations entre les différents personnages conduisent au drame, conduisent à une explosion de violence. Et j'avais une autre idée mais j'ai oublié.
Non, je voudrais qu'on dise un mot aussi quand même de ce titre, Lapia, qui était le titre que vous aviez en tête, mais qui est très fort. Personnellement, je ne connaissais pas ce à quoi ce mot renvoie. Est-ce que vous pouvez nous décrire de quoi il s'agit? Et peut-être aussi nous dire à quel point cette idée donc d'une faille, je ne sais pas comment dire, se répand d'une certaine manière dans le roman.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est un lapia?
Alors un lapia, c'est une forme géologique qui est caractéristique des montagnes calcaires. C'est une immense dalle rocheuse qui est cisaillée de failles très profondes. Et c'est un endroit qui est à la fois connu et craint. Parce que c'est un peu dangereux. C'est dangereux pour les bêtes qui peuvent tomber dans une faille. C'est dangereux pour les humains qui peuvent tomber. Surtout si cette zone est recouverte de neige ou recouverte de feuilles mortes. Donc c'est un endroit pas maléfique, mais enfin connu et craint. Donc l'histoire se passe à côté d'un lapia. Et très vite, je me suis aperçue que le lapia, c'était la métaphore du danger qui pesait sur tous ces personnages, et en même temps la faille aussi, c'était exactement une faille qui c'est la faille du paysage qui représentait les failles dans les personnages, et failles qui allaient en s'élargissant effectivement.
Je vous propose qu'on écoute la voix de l'écrivain afro-américain James Baldwin dans un documentaire signé Pierre Koralnik. C'était en 1962 pour la télévision suisse romande. James Baldwin, il lisait un texte de sa plume qui portait sur son expérience d'étranger ayant séjourné au début des années 50 dans un village valaisan, Le Schlebin, Leukerbad. On l'écoute.
Le paysage est affreusement sinistre, avec ses montagnes dominant de tous côtés, avec sa glace et sa neige à perte de vue. Dans ce désert blanc, hommes, femmes et enfants vont et viennent la longue de journée, transportant du linge, du bois, des seaux de lait ou d'eau, allant quelquefois skier le dimanche après-midi. Ce premier été, j'ai resté 2 semaines et je n'ai aucune intention de revenir. Je revins pourtant en hiver pour travailler. Maintenant, c'est de nouveau l'hiver, et je suis ici de nouveau. Au village, tous savent mon nom, bien qu'ils ne l'utilisent que rarement. Tous savent que je viens d'Amérique, bien que, selon toute apparence, ils ne croiront jamais vraiment. Les Noirs viennent d'Afrique, et je suis tout autant un étranger aujourd'hui qu'au jour de mon arrivée, et les enfants crient « nègre, nègre » quand je passe dans les rues.
James Baldwin dans ce documentaire de 1962 à propos de son expérience d'étranger arrivant dans ce village et du racisme dont il fait l'objet alors. Mais on entend aussi dans sa voix cette espèce de double regard. Dans ce texte, il dit à la fois son propre regard peu enthousiaste sur ce paysage justement de montagne dans lequel il arrive et qui trouve froid, mais aussi regard qui contrebalance immédiatement dans ce texte par celui que les gens du coin portent sur lui, qui est un regard plutôt violent en l'occurrence. Cette bascule des regards, elle est au cœur de votre livre, oui. Maryse Vuillermet. Qu'est-ce qu'elle vous permet d'un point de vue
Alors, je suis contente d'avoir entendu ce texte. Je connaissais Baldwin, mais je ne savais pas qu'il avait résidé dans un endroit aussi reculé de la montagne suisse. Alors, cette bascule des regards me permet, un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être dans les deux côtés de la faille. Et juste dire la faille, c'est fécond pour un écrivain. Les écrivains ont souvent des failles. Donc, je suis des deux côtés de la faille, du côté de ceux qui sont là, qui sont ancrés depuis de tout temps. Et en même temps, je suis du côté de ceux qui arrivent. Et pendant longtemps, j'ai cherché mon écriture ou mon chemin d'écriture, parce que j'ai écrit des récits sur les immigrés. Mon grand-père était un immigré italien, donc j'ai écrit sur son arrivée dans le Haut-Jura. J'avais des grands-oncles qui étaient partis d'Italie en Australie. J'ai écrit sur eux. Et puis. Donc j'ai écrit sur des récits de départ, d'exil, et en même temps j'ai écrit sur le Haut-Jura. Puis en fait je me suis dit non, ce que j'ai envie d'écrire c'est la rencontre, la rencontre féconde ou moins féconde, mais c'est la confrontation, c'est la confrontation. Et là vraiment avec Lapia, j'ai réussi à écrire quelque chose qui me correspond vraiment fortement, parce que je suis justement, comme vous dites, pour ne pas être prisonnière de la faille, je suis des deux côtés. Je suis des deux côtés et je peux décrire la faille.
Ce roman, il paraît dans la collection Noire des éditions du Rouergue, donc collection qui rassemble des romans qu'on dit noirs. Le roman noir, est-ce que c'est un genre auquel vous vous identifiez en tant qu'écrivain? Enfin, je veux dire, est-ce que pour vous, ce roman, il relève du roman noir? Est-ce que c'est un genre fécond pour vous en tant qu'autrice?
Oui, alors le roman noir, c'est un roman qui ne raconte pas une enquête. On est dans une atmosphère angoissante et ça se termine souvent par un drame. Alors il me correspond de plusieurs façons. D'abord, souvent il y a une dimension sociologique dans le roman noir. Je pense au néo-polar de Daninx ou de gens comme ça, ou de... J'ai oublié les noms, mais enfin de femmes aussi qui ont beaucoup écrit dans ces collections. Manotti, par exemple. Bon, donc le roman noir décrit une société et il l'a décrit dans ses convulsions, d'une certaine façon. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup lu d'Anax, enfin des gens comme ça. Et puis j'ai, je sais pas pourquoi, une fascination, enfin je suis troublée par la douleur. La douleur des qui est tout autour de nous et qui aussi bien la douleur d'un enfant que d'un animal que d'une société que du Père Satan j'aimerais écrire des textes drôles ou heureux, mais dès que j'écris je suis dans un sentiment de douleur quoi. Donc j'ai toujours raconté des histoires un peu tristes, un peu je sais pas faire autre chose et en même temps je trouve que le roman noir décrit notre monde, quoi.
Mais triste, je ne sais pas si c'est l'adjectif utilisé pour décrire votre livre. Ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose qui est très saisissant dans l'écriture de ce livre, c'est la tension permanente dans laquelle on est plongé, nous, en tant que lecteurs lectrices, et qui est liée à cette narration, cette dramaturgie particulière qui est celle, c'est le principe même du suspense. Hein. Hitchcock disait le suspense, c'est quand on sait que la bombe est sous la table et qu'on se demande quand est-ce et comment elle va exploser. Là, c'est ça. On sait qu'un drame va arriver, on ne sait pas la nature. Et ce qui est proprement saisissant, c'est que à la toute fin, voilà, on nous est révélé de quelle nature est ce drame terrible, cette menace qui pesait et qui finit par arriver. Mais au fond, c'est pas tellement la résolution qui compte. Mmh. Ce qui compte, c'est l'atmosphère de tension dans laquelle on a été plongé par l'imminence et par cette préscience qu'a aussi le Père Satan, qui est un peu comme un... On parlait de la tragédie antique, c'est un peu comme un coryphée.
Le cœur, c'est un peu le cœur.
Le cœur antique, voilà.
Le cœur antique, effectivement. Triste, parce que le roman noir, il donne de la force à la tristesse, d'une certaine façon. C'est peut-être pas triste, c'est inquiétant. Inquiétant parce qu'on sait que le monde est dur, quoi. Alors, j'ai fait dire depuis le début quasiment au Père Satan, et même à sa femme aussi, elle sent très bien les choses, qu'il va arriver un malheur, mais on ne sait pas de quel côté, ou le ver est dans le fruit, mais on ne sait pas quel fruit.
Ou quel ver.
Ou quel ver. C'est une façon sombre de voir le monde, de penser le monde, mais c'est ça.
Vous parliez des animaux, de la tristesse que vous sentez aussi chez les animaux. Les animaux, ils jouent un grand rôle dans ce texte. Je vous propose qu'on écoute un autre extrait du roman. C'est un passage où le personnage d'Isabelle pénètre dans l'appartement, dans la maison d'Arlette et son mari Bernard. On écoute.
Hésitante, Isabelle s'apprête à repartir, déjà soulagée de ne pas avoir à parler. Quand soudain, peut-être parce qu'elle s'est habituée à la pénombre et parce qu'elle a avancé un peu à l'intérieur, elle voit ce qui gêne l'ouverture derrière la porte. Elle devine, plus clair dans le sombre de l'entrée, le seau en bois, le seau bizarre d'Arlette et son couvercle du même bois poussé légèrement. C'est peut-être elle qui l'a déplacé le couvercle en poussant un peu trop fort la porte d'entrée. Au moment où elle va se pencher pour le remettre, en même temps, au même instant, dans le demi-jour, pointe entre le couvercle et le bord du seau une tête triangulaire, une gueule fine ouverte sur des crochets, et tout le corps sinueux et mince d'une vipère grise se faufile par l'ouverture du seau, descend le long de la paroi et chute légèrement au sol. Elle la suit du regard, fascinée, et là, sur les dalles plus claires, elle constate avec terreur qu'il y a deux autres, plus longues, plus grosses, déjà descendues du seau, qui se tortillent, rampent dans sa direction, se dirigent vers l'entrée, vers la lumière et vers ses pieds. Des nappes de plomb coulent dans ses jambes. Elle ne peut plus bouger. Elle assiste en apnée à un cauchemar, dédoublé. Elle devrait déjà être loin, en train de fuir, mais c'est impossible. Clouée au sol, immobile et rigide comme une morte, Elle observe le premier des plus gros serpents s'approcher, toujours plus, et horreur, monter sur son pied nu dans ses sandales. Oui, elle sent sa peau sèche et froide. Elle supporte, tétanisée, toute la longueur de son corps glisser et redescendre. Son cœur s'est arrêté de battre. Son corps est paralysé. Ses jambes, ses pieds, un bloc de terreur, tendu. Son cerveau, envahi de noir, incapable de décider, elle ferme les yeux. Elle va tomber, là, au milieu d'eux, être recouverte par eux. Ils vont entrer en elle, dans sa bouche.
C'est une scène de la première partie de ce roman, La Pia Maryse Villermet. Scène d'horreur, on pourrait dire. On est comme dans un cauchemar. Oui. Isabelle pénètre dans cette maison où il y a le sceau d'Arlette, parce qu'Arlette pratique cette activité dont j'ai découvert qu'elle avait toute une tradition.
Elle a existé, bien sûr.
La chasse aux vipères. Oui. Voilà, donc c'est ancré dans une réalité. Et pourtant, à écouter cette scène, on se dit que c'est une image purement littéraire, purement fictionnelle, tellement vous faites résonner la puissance sexuelle, la puissance érotique et la puissance terrifiante de cette image. Comment elle vous est venue, cette scène-là?
Alors, comme vous l'avez dit, la chasse aux vipères, moi j'ai connu des gens qui pratiquaient cette chasse pour aller vendre les serpents dans les pharmacies. Et puis, en même temps, comme tout le monde, j'ai peur des vipères. Et dans les Lapia, c'est un endroit qui est réputé pour pour contenir des vipères. Et puis, je voulais montrer peu à peu comment Isabelle devenait terrifiée par cet univers. Et ce qui est le plus terrifiant dans cet univers, il n'y a pas de loup, il n'y a pas d'ours, il y a des vipères.
Il y a des abeilles aussi qui attaquent.
Il y a des abeilles.
Il y a des sangliers qui ont tendance
Mais quand même,
à se montrer un peu dangereux.
Je me suis dit, les vipères, et je l'ai imaginé, je sais très bien comment est le sceau de vipères. Et j'ai imaginé qu'elle le renversait, qu'en fait.
Mais la puissance de cette scène, elle vient aussi de sa connotation érotique, je trouve.
Et surtout quand je dis, comme vous avez terminé la lecture sur...
Lecture faite par Léa Weiss-Grus.
Oui.
Mais c'est aussi quand on avance dans le roman, la dernière partie qu'on va pas révéler parce que ce serait vraiment gâcher le plaisir du lecteur. Mais il y a toute une dimension très forte sur la sexualité des personnages, sexualité dont on comprend bien qu'elle est en partie refoulée ou mise, je ne sais pas, sous la roche d'un monde d'interdit tout simplement, et qui quand elle éclate, quand on lui laisse libre cours, se révèle aussi d'une certaine manière dangereuse. Il y a aussi ces échos-là par ce texte-là.
Oui, oui, tout à fait. J'ai voulu montrer que ces hippies, justement, ces jeunes, apportaient non seulement leurs rêves, mais ils apportaient une liberté sexuelle qui a interrogé les habitants du coin, et en particulier les jeunes. Et en particulier Bernard, qui s'est aperçu que peut-être il y avait autre chose que ce qu'il connaissait.
Ouais. Et ça... On est 10 ans aussi après 68.
Voilà, c'est ça. Et donc qui ensuite va carrément changer de vie, quoi. Enfin, va découvrir la sexualité et la jouissance sexuelle. Et mais c'était très fort dans ces années-là, ce besoin de libération et ce besoin d'épanouissement. Et c'est pas seulement la liberté sexuelle, c'est aussi la découverte du plaisir en général.
Ouais.
À un moment donné, je fais dire à Arlette, la femme de Bernard, donc c'est en hiver. Lui, il a pas énormément de travail l'hiver puisqu'il travaille dans le bois. Il affûte ses outils et Arlette, sa femme, vient et lui dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas aller se promener en ski de fond ?» Il dit « Quoi ? Se promener ? Nous ? De quoi j'aurais l'air ?» Et lui dit « Tu aurais l'air de quelqu'un qui profite de la vie. » Et c'est tout le sujet, quoi.
Ouais, quand on lâche les vipères, le danger arrive. Le book club continue. «
À cette heure-ci dans l'émission, nous avons pour habitude de vous signaler des événements en lien avec la littérature. Cette semaine, on a envie de vous renvoyer à un événement qui s'écoute. Depuis plus de 60 ans, France Culture tend ses micros à celles et ceux qui nous aident à penser le monde, des écrivains, des chercheurs, des penseurs, dont les paroles continuent de résonner aujourd'hui. Tout au long du mois de décembre, la chaîne vous propose de redécouvrir cette mémoire vivante à travers une collection qui s'appelle « Nos grandes voix » et qui vous permet de réentendre Jean Baudrillard, Françoise Héritier, Raymond Queneau ou Marguerite Yourcenar, ou encore l'autrice et prix Nobel de littérature Toni Morrison, qui en 2006, pour une série d'entretiens à voix nue, rappelait avec force que le rôle de l'auteur n'est pas d'apporter des réponses toutes faites, mais de poser des questions, d'ouvrir des pistes. Tout ceci est à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.
To pose the question is the role of the writer. Hint, perhaps, at solutions from one point of view or another, but not to end like a television program where everybody lives happily ever after.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Et à cette heure-ci dans le Book Club, on joue à notre grand jeu des pages musicales, Maryse Buyermet. Le principe en est très simple, on cherche des citations musicales dans des livres. Si, chers auditeurs, chères auditrices, vous trouvez au fil de vos lectures la mention d'un air de musique, d'une chanson, faites une photo du passage que vous lisez et envoyez-la nous. On pioche dans ces propositions pour se quitter chaque jour en chanson. Aujourd'hui, on a trouvé de la musique dans votre livre, L'Appia, Maryse Buyermet. On va donc se quitter avec un dernier extrait de votre roman. Avec Bernard, ils ont des vies parallèles. Chacun son domaine, chacun son travail. Elle, la maison, le petit Paul, le jardin, les poules et les lapins, les bouts de champs autour qu'on travaille presque à la main, les pommes de terre avec les beaux-parents, la surveillance des génisses. Et lui, les foins dans les grandes prairies et le bois, c'est comme ça, pas besoin de se parler. Avant, quand elle était célibataire, elle aussi, elle allait au bar avec les copains. Elle tient même l'alcool autant que les hommes et elle était toujours la dernière à rentrer. Elle allait au bal les samedis soirs. C'est là qu'elle avait rencontré Bernard, sur un slow, Nights in White Satin. Elle l'avait repéré, Bernard. Mais qu'est-ce qu'elle avait remarqué chez lui? Sûrement cette impression de force, de puissance, cette masse musculaire mêlée à de la timidité. Et puis sa vie, ce qu'il faisait. Ils se connaissent tous dans la montagne. Elle savait que c'était un homme des bois, comme elle, avec ses vipères.
Nights in white satin. Never reaching the end. Letters. I've always missed with these blind eyes before. Just what the truth is, baby, I can't say anymore.
Très grand merci, Maryse Buyermet, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce très beau roman. L'Appia, c'est son titre. Il a paru dans la collection noire des éditions du Rouergue. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anna Olvec, à la technique Grégory Wallon. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et tout particulièrement aujourd'hui à Léa Weisgruss et à Noé Margas. On poursuit la conversation sur le compte Instagram de l'émission animée par Alexandre Alaibegovic.